La recherche de la vérité n'a jamais été une préoccupation des potentats. Dans leurs chroniques, les rois d'antan oublient assez systématiquement de consigner les épisodes de leur règne qui leur sont défavorables, comme les défaites militaires par exemple. Quant aux historiens anciens, ils cherchent avant tout à plaire à leur maître qui soit paye leur service, soit tranche leur tête. Ce qui fait que leur façon de rapporter les événements est colorée en rose ou en noir, selon ce qu'il plaît à leur employeur. Quand un épisode historique n'est relaté que par un seul auteur, on doit se demander s'il est vraiment digne de foi. Par exemple, le chapitre 11 de Daniel rapporte une quatrième guerre entre l'Égypte et la Syrie. Mais le seul historien à mentionner cette campagne est Porphyre, un philosophe grec-syrien du 3e siècle de notre ère. Et pour compliquer un peu plus le tableau, nous tenons cette information de Jérôme, un père de l'Église. Il rapporte que dans la 11e et dernière année de son règne, Antiochus IV Épiphane entreprit une nouvelle campagne contre ses neveux Ptolémée X et VII, roi d'Égypte, avec des chariots, des cavaliers et une flotte considérable dévastant tout sur son passage. Oui, sauf qu'à cette époque, l'Égypte est sous le contrôle des Romains, et il n'est pas possible de croire qu'il aurait laissé Antiochus s'approcher de l'Égypte sans intervenir. Semble donc que l'historien Porphyre a laissé son imagination gambader et que la dite campagne militaire mentionnée dans le livre de Daniel n'a pas eu lieu en Égypte, mais c'est une prophétie qui s'accomplira à la fin des temps. Je continue de lire dans le chapitre 11 de Daniel. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des charges et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Le roi du Midi est une alliance de peuples au sud d'Israël. Septentrion est une confédération de nations au nord d'Israël. Les pronoms « lui » et « il » désignent l'Antichrist, le nouveau César de la troisième phase de l'Empire romain. À la fin de la première moitié de la 70e septaine année de la prophétie de Daniel, c'est-à-dire à la fin des trois premières années de la tribulation, des nations au nord et au sud d'Israël vont simultanément attaquer l'Antichrist, mais de façon indirecte en lançant une offensive coordonnée contre Israël, avec qui ce fureur, les derniers temps, a établi une alliance garantissant sa sécurité. Cet accord est en béton au point où non seulement Israël est totalement désarmé, mais l'Antichrist le considère comme une extension de son empire au Moyen-Orient. Estimant donc que toute menace contre Israël comme un acte d'agression contre lui, l'Antichrist réagit rapidement, violemment, et envahit le Moyen-Orient par le Nord. Je continue. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, mais Édom et Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Ayant vaincu la Confédération du Nord, l'Antichrist continue vers le sud, traverse le plus beau des pays, c'est-à-dire Israël, mais évite la Jordanie sans qu'on sache pourquoi. Je continue. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. L'Antichrist remporte également la victoire sur la Confédération du Sud, qui comprend les nations arabes du Sinaï et du Golfe Persique, et il s'empare de toutes leurs richesses. Je continue. Les nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendra l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer les multitudes. Alors que l'Antichrist dirige des opérations en Égypte, il reçoit des nouvelles alarmantes. Il s'agit de forces militaires qui arrivent à la fois du Grand Nord et de l'Est, avec l'intention d'en découdre avec lui. La Russie et ses alliés, dont l'Iran, partie de ses armées. Ce qui se passera alors n'est pas dans la vision de Daniel, mais nous est révélé par le prophète Ézéchiel. Avant que l'Antichrist n'engage le combat avec la Russie et ses alliés du Nord et de l'Est, ils sont soudainement anéantis par Dieu, qui utilise probablement un cataclysme naturel. Il est quasi certain que l'Antichrist revendiquera alors la destruction surnaturelle des armées du Nord. Je finis de lire le chapitre 11 de Daniel. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. N'ayant plus d'adversaire, l'Antichrist est dorénavant, il a les coudées franches. Il décide alors de rester en Palestine et il établit sa capitale à Jérusalem sur le mont Sion, appelé la glorieuse et sainte montagne, et qui est située entre la Méditerranée et la mer Morte. Comme je l'ai déjà dit, au milieu de la tribulation, qui est de la 77e de la prophétie de Daniel, l'Antichrist rompt son alliance avec Israël et commet l'abominable profanation en se proclamant Dieu et en installant son effigie dans le temple reconstruit de Jérusalem. Précédemment, et en parlant de ce dictateur, l'ange Gabriel a dit à Daniel, le roi agira à sa guise, il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des cieux, proférera des blasphèmes inouïs contre lui. Il n'aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres, ni pour aucun autre dieu, car il se placera au-dessus de tous. Parlant de ce dernier César, dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit qu'il est l'adversaire qui s'élève au-dessous de tout ce qui se porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. L'Antichrist aura un comportement exactement à l'opposé de celui du Christ quand il était sur terre. Alors que ce dernier César n'en fera qu'à sa tête, l'apôtre Jean rapporte les paroles que Jésus y a dit aux Juifs. « Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge selon comme le Père me l'indique, et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors, l'Antichrist s'exaltera au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. Aux Philippiens, Paul écrit, « Lui, Jésus, qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. L'Antichrist, qui est le représentant de Satan sur terre, insultera le Dieu unique et véritable, ce qui n'est pas surprenant parce que le blasphème contre Dieu est l'aboutissement logique de l'humanisme parvenu à son apogée. Ce despote établira sa juridiction sur le monde entier. Il gouvernera d'une poigne de fer aussi bien dans le domaine politique que religieux. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Antichrist est appelé la première bête, tandis que la seconde bête est son bras droit. C'est un faux prophète qui détient un pouvoir extraordinaire. Je résume un passage du livre de l'Apocalypse. Cette nouvelle bête accomplira des signes miraculeux, faisant tomber du feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarerait tous les habitants de la terre. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête. Et l'image se mit à parler, elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. Sous le règne de l'Antichrist, seuls peuvent prospérer ceux qui prouvent leur allégeance à l'Antichrist en portant son nom, son effigie ou un chiffre numérique qui lui correspond. Il faut donc montrer patte blanche pour participer à n'importe quelle transaction économique ou administrative pour acheter ne serait-ce qu'un bout de pain, pour vendre, retirer de l'argent, louer une voiture, obtenir un document officiel, et ainsi de suite. Ceux qui refusent de se soumettre à la bête sont pourchassés à mort comme du vulgaire gibier. Et même en se tirant nuit et jour, il leur est impossible de passer à travers les mailles du filet de l'Antichrist. Mais aussi le texte de la prophétie. Il arrivera à la fin, tant que personne ne lui soit en aide. Au temps arrêté par Dieu, la bête est jugée et jetée dans les temps de feu. Nous arrivons maintenant au chapitre 12 qui termine cette longue prophétie. Je rappelle que parce que Daniel se fait du souci pour l'avenir de son peuple, il a prié Dieu de lui révéler l'avenir. Seulement, la vision qu'il reçoit est particulièrement menaçante pour Israël. Il y a donc tout lieu de croire que Daniel est consterné et même dans une grande détresse. Je commence de lire le chapitre 12. En ce temps-là, se levèrent Michaël, le grand chef, qui a pour mission d'aider son peuple. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là, seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre de vie. L'archange Michaël est le défenseur et le champion d'Israël. Il se transforme en guerrier pour prendre en main la cause du peuple de Dieu dont il a la charge. Pendant la deuxième moitié de la grande tribulation, Israël connaîtra une détresse sans précédent. Ce sera une époque où la chasse aux Juifs est ouverte 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Alors qu'en tant que nation, Israël semble voué à l'extinction, le retour triomphant du Messie qui détruira l'Antichrist et tous ceux qui le suivent mettra une fin abrupte aux persécutions. Matthieu rapporte que Jésus a parlé de ce temps de grand péril quand il a dit « À ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus, on ne verra pareille souffrance. Vraiment. » Si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. Cette prophétie concerne la nation d'Israël, mais aussi les individus, puisqu'elle précise, en ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Gabriel a déjà parlé du livre de vérité, mais ici, il s'agit du livre de vie, dans lequel sont consignés les noms de tous ceux qui hériteront le royaume de Dieu. Ésaïe y fait référence quand il dit « Alors ceux qui subsisteront, ceux qui resteront à Sion, seront appelés saints. Tous ceux qui, à Jérusalem, seront inscrits afin d'avoir la vie. » Quand les disciples de Jésus reviennent de mission, tout heureux parce que les démons leur obéissent, Jésus les rappelle à l'ordre en leur demandant de garder leurs priorités dans le bon ordre. Il leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Plusieurs textes font référence au livre de vie, mais c'est une information annexe plutôt qu'un enseignement spécifique sur ce sujet. Par exemple, il est dit que ceux qui se soumettent à l'Antichrist ne sont pas dans le livre de vie. Je lis deux passages tirés du livre de l'Apocalypse. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Les habitants de la terre dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. s'émerveilleront en voyant la bête, car elle était, elle n'est plus, elle viendra. Quand l'apôtre Jean écrit que le livre de vie a été écrit avant la création, il traite cette information comme si c'est une lapalissade banale, alors que pour nous, il fait une déclaration tonitruante. Ce livre a été composé par le Dieu souverain dans l'éternité passée. On comprend, au jour du jugement dernier, il servira à déterminer le dessein éternel de chaque être humain. Je lis ce passage en le compressant. Je vis les morts, les grands et les petits. Comparaissant devant le trône, des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jettera aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Le royaume des cieux comprend la nouvelle Jérusalem. Rien d'impur n'y entrera, car seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau y auront accès. Je continue le texte de Daniel. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'aurore éternelle. L'expression « ceux qui dorment dans la poussière de la terre » est une allusion à la malédiction dont Dieu a frappé la race humaine quand il a dit à Adam « Puisque tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi, oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » La résurrection des morts, ou tout au moins de ceux qui obtiennent la vie éternelle, atteste que la malédiction de Dieu sur la terre, la nature, l'univers et sur l'homme est désormais levée. La promesse de la résurrection des justes est faite de manière plus ou moins explicite au travers des pages de l'Ancien Testament. Je lis deux passages tirés du livre d'Ésaïe et de Job. « Mais tes morts reviendront, les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière. » Et la terre rendra les trépassés. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. Le passage du livre de Daniel mentionne également ceux qui se réveilleront pour la honte et l'aurore éternelle. Dans l'Ancien Testament, le concept d'une condamnation éternelle est rare, mais quand même présent. Par exemple, le livre du prophète Ésaïe se termine par des paroles particulièrement sinistres que je lis. Le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas. Le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais et ils feront horreur à tout être vivant. Ce passage de Daniel est le seul de l'Ancien Testament qui mentionne spécifiquement une résurrection des Juifs infidèles pour une condamnation éternelle. Au Testament, par contre, nous avertit souvent que deux destinées diamétralement opposées attendent tous les hommes. Par exemple, dans son évangile, Jean rapporte que Jésus a dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Alors, ils en sortiront, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » Le jugement éternel n'est pas un sujet de conversation agréable entre les gens bien pensants autour d'une tasse de thé. Autant parler, car on ne doit pas ignorer que comme la félicité éternelle des justes, la condamnation éternelle est une réalité tragique enseignée tout au long des Écritures. Jusqu'à présent donc, le long exposé prophétique de l'ange Gabriel à Daniel a surtout consisté en une suite de malheurs qui vont frapper son peuple. Après ces révélations terribles, l'ange lui annonce quand même des bonnes nouvelles. Il lui dit d'abord qu'Israël sera délivré des griffes de l'Antichrist par la venue soudaine du Messie. Maintenant, il donne une réponse concernant le sort des hommes et des femmes fidèles à l'Éternel qui sont morts prématurément sur le feu des persécutions. Les Juifs martyrs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront pour la vie éternelle. Cette résurrection aura lieu à la fin de la tribulation, au moment du retour glorieux du Messie. Dans l'Apocalypse, Jean écrit « Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains, revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Ceux qui prennent part à cette première résurrection sont tous les croyants de l'ancienne alliance, qui sont israélites et non juifs. Ainsi, tous les martyrs morts pendant les persécutions de l'Antichrist à cause de leur fidélité à l'Éternel. Par contre, cette résurrection ne concerne pas l'Église du Christ qui a déjà été enlevée dans les cieux avec tous ceux qui ont foi en Jésus, les morts inclus. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, Paul écrit « Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix d'un archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. » Et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. En d'autres mots, lorsque l'Église a été enlevée dans les cieux, une première résurrection a eu lieu. Mais ici, elle n'est pas prise en compte parce qu'elle ne concerne pas le programme de Dieu avec Israël. Or, c'est ce peuple dont il est question dans cette prophétie. La résurrection des justes, mentionnée ici, concerne les juifs et les païens prosélytes qui ont cru en l'Éternel sous le régime de l'ancienne alliance, ainsi que les croyants assassinés par l'Antichrist. Ils ressuscitent à la fin de la tribulation afin d'entrer dans le millénium. À la fin des 1000 ans de règne du Messie, sur terre aura lieu la résurrection de tous ceux qui sont condamnés. Soit juifs, païens. Alors se tiendra le jugement du grand trône blanc, autrement dit, le jugement dernier. Assurez-vous de ne pas vous trouver alors sur le banc des accusés.